Cet accord est une avancée majeure. C'est ce que nous avons voulu faire, nous, à United, c'est-à-dire cette organisation internationale basée sur cette petite taxe sur les billets d'avion. Nous avons voulu, à tout prix, changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, entre un médicament nouveau, le plus récent et donc le plus efficace, mais aussi le plus cher, qui n'est réservé qu'aux pays riches, je crois que c'est une grande honte. Il faut attendre 15 ou 20 ans pour que ce médicament puisse arriver dans les pays pauvres. Et donc, nous avons demandé aux laboratoires pharmaceutiques s'ils acceptaient que nous créions une compagnie sans profit, dans laquelle ils pourraient nous confier leurs brevets, ces nouveaux médicaments, et nous, par des licences avec des génériqueurs, nous pourrions enfin, pour la première fois, permettre aux malades des pays pauvres d'accéder aux mêmes médicaments et au même moment que les malades du pays riche.
Les laboratoires sont un des principaux freins à la lutte contre le sida. Comment les convaincre à participer à cette communauté de brevets médicaux ?
Je crois qu'il ne faut pas jeter obligatoirement l'opprobre sur les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, ce sont des entreprises privées et il leur faut des marchés. Donc malheureusement, personne ne peut acheter leurs médicaments dans les pays pauvres. Personne. Et donc eux, ils sont là comme toutes les entreprises pour faire du profit. Et donc c'est aux hommes politiques, à la gouvernance mondiale, à l'ONU, aux chefs d'État de mettre en place des nouveaux systèmes qui encadrent ces règles internationales du commerce. C'est ce que nous avons nous proposé. Et puis, je leur dis aux laboratoires pharmaceutiques, de toute façon, ce n'est pas un marché, donc autant mettre des génériqueurs. Et dans nos accords, les génériqueurs payent des royalties pour un laboratoire pharmaceutique. Et donc, c'est gagnant pour les laboratoires pharmaceutiques qui reçoivent des royalties là où il n'y avait rien pour eux, puisqu'ils ne vendaient rien, donc on ne pouvait pas leur acheter quelque chose. C'est gagnant pour les génériqueurs parce qu'enfin, ils ouvrent un marché. Et enfin, et c'est surtout pour ça que nous l'avons fait, c'est gagnant pour les 10 millions d'êtres humains aujourd'hui qui ne sont pas soignés de manière honteuse parce que les règles du commerce international les ont oubliés.
Cet accord marque donc une étape importante aujourd'hui. Quels sont les défis pour l'avenir ?
Les grands défis pour l'avenir, c'est que maintenant que Gilead est venu, il faut que d'autres laboratoires pharmaceutiques viennent. Nous leur disons, n'ayez pas peur, venez avec nous. C'est important d'abord pour l'image de l'industrie pharmaceutique. C'est important également pour la vision qu'on peut avoir du monde. La mondialisation de l'économie s'est faite par les hommes d'affaires. La mondialisation de la communication s'est faite par les hommes d'affaires. Eh bien, la mondialisation de la solidarité doit être faite par les hommes politiques. Les hommes politiques sont trop locaux. Ils ne sont pas globaux comme les hommes d'affaires ou les hommes de communication. Parce que les hommes politiques s'intéressent essentiellement, évidemment, à leur réélection, à leurs électeurs, à leur nation. Mais il faut qu'ils voient plus loin. Aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de gens qui n'ont rien, qui n'ont ni nourriture, ni eau potable, ni médicaments, ni éducation et ni assainissement. C'est la honte de l'humanité. Vous ne pouvez pas laisser 1,4 milliard de gens comme ça, d'abord pour des raisons morales, éthiques, et je pense que les valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe doivent être là pour dire non, et puis ensuite pour des raisons politiques, parce que vous ne pouvez pas laisser 1,4 milliard de gens sans rien, alors que Internet, très bientôt, va leur expliquer ce que nous faisons avec l'argent. Donc il peut y avoir là un rendez-vous au XXIe siècle terrible d'humiliation, de colère et donc évidemment un risque d'agressivité et de terrorisme majeur.